France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin. À suivre dans le 5-6, l'ascenseur social version maritime dans les chroniques littorales. Ce sera notre portrait du vendredi. Notre invité déjà debout travaille chez un champion de l'immobilier d'entreprise et il nous expliquera comment il tente de réenchanter le vendredi au bureau. On va groover dans la playlist, rire avec Charline Vanhoenacker qui a dans le viseur le Salon du Bourget. Et puis question d'enfants et d'adultes ce matin dans le 5-6, on se demande ce que c'est justement qu'être adulte dans les petits bateaux, alors qu'avant 6h, le Café Philo s'intéresse aux interrogations des enfants. Bon réveil, vous avez le programme, je vous accompagne pour 4h.
France Inter.
Et on démarre avec le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Donald Trump annonce qu'il continue de réfléchir.
Après 3 jours de tergiversations sur une éventuelle intervention américaine dans le conflit armé entre Israël et l'Iran, la Maison-Blanche fait savoir que Donald Trump se décidera au cours des 2 prochaines semaines. De quoi laisser la porte ouverte à des négociations avec Téhéran. Et c'est par la voix de sa porte-parole et devant les journalistes que le président américain a fait passer son message, Benjamin Hilly.
Oui, Caroline Leavitt, chargée de prêcher la parole présidentielle, a lu cette déclaration émanant directement de Donald Trump. Compte tenu du fait qu'il y a une possibilité substantielle de négociations éventuelles avec l'Iran dans un futur proche, je prendrai ma décision sur le fait d'y aller ou non. Au cours des 2 prochaines semaines, Donald Trump a les idées claires, d'après sa porte-parole. Aucun enrichissement d'uranium. L'Iran ne doit absolument pas être en mesure de fabriquer une arme nucléaire. C'est un fait. L'Iran n'a jamais été aussi proche de l'obtenir. Ils ont juste besoin d'une décision du guide suprême en ce sens, et cela leur prendrait une 15aine de jours pour achever la production de cette arme. Donald Trump n'oublie pas tous ceux qui l'ont acclamé en meeting. Ses électeurs auquel il a toujours promis qu'il ne ferait pas la guerre. C'est le faiseur de paix, il privilégie toujours la diplomatie. Mais croyez-moi, le président n'a pas peur d'utiliser la force si nécessaire. Alors que fera Donald Trump? Si jamais vous ne l'aviez pas compris, nous devrions, sauf extension du délai, avoir la réponse d'ici 2 semaines.
Et de son côté, Israël affirme que toute aide serait la bienvenue contre l'Iran et son programme nucléaire. Et les alertes anti-aériennes retentissent par ailleurs depuis quelques minutes dans plusieurs régions du pays après des tirs de missiles iraniens. Israël qui continue de tuer chaque jour des dizaines de Palestiniens à Gaza. En parallèle de ses frappes sur l'Iran, au moins 76 personnes ont été tuées hier selon la défense civile, dont beaucoup étaient venus chercher de l'aide alimentaire. Le Niger nationalise Somaïr, la filiale du géant français de l'uranium Orano, et dont Orano a perdu le contrôle opérationnel depuis déjà plusieurs mois. C'est un dossier devenu symbolique des tensions entre le Niger et la France. L'exploitation de l'uranium dans le pays est au cœur d'un bras de fer entre la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2023 à Niamey et le groupe Orano, dont le capital est détenu à plus de 90% par l'État français. La France qui a investi dans un opérateur français de satellites, Eutelsat, pour concurrencer le réseau américain Starlink d'Elon Musk. Un investissement massif qui atteindra au total 717 millions d'euros. D'autres acteurs privés vont aussi investir, dont l'armateur CMA-CGM. L'opérateur de satellites espère en tout récolter 1,3 milliard d'euros.
C'était une initiative de Gabriel Attal, durcir la justice des mineurs.
La proposition de loi de l'ex-premier ministre, redevenu député, visait, je cite, à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Le texte avait été adopté par le Parlement mi-mai, sauf que le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de gauche, censure assez largement le texte et certaines des mesures phares de la loi, Pierre de Cossette.
Sur les 15 articles de la loi votée le mois dernier, les sages en ont censuré 6, sur l'excuse de minorité notamment. Aujourd'hui, par défaut, la peine pour un mineur est automatiquement atténuée, sauf si le juge en décide autrement. Gabriel Attal voulait au contraire des peines sur le même barème que les adultes pour les plus de 16 ans dans les cas les plus graves, à moins que le juge en décide autrement et motive sa décision. Article 7. retoqué. Autre mesure phare censurée, le jugement en comparution immédiate pour les récidivistes à partir de 16 ans, quand actuellement il existe un délai de plusieurs mois entre l'audience et la décision sur la peine, le temps de voir comment le mineur évolue. Pour le Conseil constitutionnel, cette comparution immédiate pour mineurs va à l'encontre d'un principe fondamental, la primauté de l'éducatif sur le répressif. Article validé en revanche, et qui vise les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ils pourront être condamnés plus lourdement si pour cette raison, leurs enfants mineurs commettent des délits.
Gabriel Attal qui affirme travailler dès maintenant à l'écriture d'un nouveau texte qui tiendrait compte de la décision. De la prison ferme requise par le parquet au procès pour traite d'êtres humains lors de vendanges en Champagne en 2023, surnommées les vendanges de la honte. Il y a une cinquantaine de vendangeurs victimes, des sans-papiers pour la plupart qui étaient logés dans des endroits insalubres et dans des conditions indignes. Le procureur requiert notamment 4 ans de prison, dont 2 fermes contre la gérante d'une société de prestations viticoles et 3 ans, dont un ferme contre 2 hommes accusés d'avoir recruté les vendangeurs.
Et puis vous vous en êtes peut-être rendu compte, la France affronte sa première vague de chaleur ce week-end.
Météo France place 16 départements en vigilance orange canicule dès aujourd'hui, 14 sur la face ouest du pays et 2 dans la vallée du Rhône, avec un pic de chaleur attendu samedi dans l'ouest. Et avec le changement climatique, des chercheurs ont déjà montré que les températures mondiales se réchauffaient plus vite la nuit plutôt que le jour. Un phénomène qui a forcément des conséquences néfastes sur le sommeil des êtres humains. Une nouvelle étude publiée cette semaine dans la revue scientifique Nature suggère cette fois que le réchauffement climatique pourrait augmenter considérablement les apnées du sommeil, Victor Dolande.
L'apnée est l'un des troubles du sommeil les plus courants, près d'un milliard d'adultes concernés dans le monde. Pour cette étude, des chercheurs australiens ont analysé le sommeil de plus de 110 000 patients à l'aide d'un capteur placé sous leur matelas. Ils ont regardé le nombre d'apnées et la température. Température extérieure, le réchauffement climatique augmente de 45% les risques de faire des apnées la nuit. Justine Frigia est médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris.
Plus il faisait chaud, plus il y avait d'apnées. Et comme on a en plus le suivi pour les personnes, puisqu'elles utilisent le matelas en continu, ils ont vu que ça évoluait pour chaque personne avec la température, avec une augmentation quand il fait plus chaud du nombre d'apnées par rapport aux nuits où il fait moins chaud.
Elle avance des pistes qui pourraient expliquer ces risques d'apnée du sommeil.
Peut-être qu'on mange différemment, on mange peut-être un peu plus salé quand il fait chaud parce qu'on a peur de se déshydrater et donc on a un peu plus de rétention d'eau et ça on sait que ça favorise les apnées. On sait aussi que quand il fait chaud on a une moins bonne qualité de sommeil et que ça peut induire une dette de sommeil et que quand il y a une dette de sommeil on a plus d'apnées du sommeil.
Et ces apnées à répétition auront probablement d'autres conséquences, notamment sur l'augmentation de la mortalité, sans compter le coût économique de la prise en charge de ces troubles du sommeil, plusieurs dizaines de milliards de dollars par an dans les pays développés.
Victor Dolande, il fera donc très chaud pour la fête de la musique et vous serez nombreux à y aller. Près d'un Français sur deux se rend régulièrement à la fête de la musique, selon une étude Ipsos saisie que vous révèle France Inter ce matin. Et un mot de basket, les Françaises qualifiées en quart de finale de l'Euro. Les Bleus battent le pays hôte, la Grèce, 92-56. Et les quarts auront lieu la semaine prochaine.
Alors que le Paris Saint-Germain vient de chuter face à Botafogo au Mondial des Clubs, 1-0, figurez-vous, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Merci Laura Dulieu pour ce journal. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
La chaleur s'accentue, Sébastien Léas.
La vague de chaleur se poursuit, s'accentue et se décline aussi en canicule, puisqu'en plus des fortes chaleurs en journée, les températures sont également éprouvantes, la nuit en restant très élevées, souvent au-dessus de 19-20 degrés. C'est pourquoi Météo France a placé 16 départements de l'Ouest et de Rhône-Alpes en vigilance orange canicule. Les maximales atteindront cet après-midi 31 degrés à Colmar et Nancy, 32 degrés à Calvi, Caen et Anglette, 33 degrés pour Paris, Vannes, Chambéry et Troyes, mais il fera 36 degrés à Laval, Agen, Aubagne et Avignon, 37 degrés à Carcassonne et Montluçon, ou encore 38 degrés à Mont-de-Marsan. Le soleil dominera sans partage, juste agrémenté de quelques nuages élevés. Sur les Alpes, l'après-midi deviendra parfois un peu plus variable, avec même quelques averses localement orageuses. La chaleur va encore s'aggraver pour la journée de samedi, qui sera d'ailleurs le pic de cette vague de chaleur. Sur une grande partie du pays, les maximales s'envoleront à plus de 34-35 degrés. Il fera même 36 à 39 degrés quasi généralisés entre l'Anjou, le Berry et la vallée de la Garonne, ainsi que dans l'intérieur du pourtour méditerranéen.
Sébastien Léas de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. L'itinéraire d'un terrien que rien ne prédestinait à devenir marin dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout fait dans l'immobilier d'entreprise post-Covid. Il veut redonner leur lustre au vendredi au bureau. Ça, c'est à 6h moins le quart. On parlera immigration aux États-Unis dans la chronique d'où ça sort. Et Charline Vanhoenacker, elle, explose le salon aéronautique du budget. Ça sera à 5h25. Dans quelques minutes, donc, les chroniques littorales. Mais d'abord, la musique au galop avec ce trio originaire de Chicago, Horse Girl, qui chante Switch Over. Horse Girl dans la playlist France Inter. Il est 5h13, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un stratège de l'océan.
Alors la personne, Marion, du contre-amiral David Sanson. Amiral Sanson, bonjour.
Bonjour José-Emmanuel.
Alors, pourquoi votre portrait aujourd'hui ? Parce que vous êtes contre-amiral et vous avez commencé comme matelot il y a 37 ans. Quel parcours ?
C'est un parcours effectivement un peu rare, on va dire, mais qui est possible. C'est ça qui me paraît important de souligner. Donc je suis rentré dans la marine à 20 ans. Je viens d'un village de Normandie, loin de la mer, et rien ne me prédisposait à la mer. Et c'est une conférence du centre d'information, le CIRFA de Rouen, qui m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit, le soir de cette conférence, c'est ça que je veux faire. C'est ce que j'ai dit à mes parents, je veux rentrer dans la marine.
Et vous avez été pompon rouge.
Et j'ai été pompon rouge, puisque à l'époque j'avais mon bac et j'ai pu rentrer de cette façon. Comme matelot, je suis devenu matelot breveté timonier après 9 mois de formation à Saint-Mandrier. Et après cela, j'ai commencé une carrière embarquée à bord de la frégate Jean de Vienne, puis le bâtiment de transport Bougainville, puis etc. etc.
Jusqu'à contre-amiral, et on vous a retrouvé contre-amiral, le patron du centre d'études stratégiques de la marine. Qu'est-ce que c'est que ce CESM ?
Effectivement, j'ai été nommé à la tête du centre d'études stratégiques de la marine, qui est un lieu où on réfléchit et on fait réfléchir des gens autour de thématiques qui concernent le naval, c'est-à-dire le militaire, les bateaux, les marines de guerre, mais également le maritime, qui est beaucoup plus vaste et qui concerne les grands enjeux de la planète, s'agissant des transports avec les porte-conteneurs, des câbles sous-marins, toutes les problématiques que l'on connaît aujourd'hui sur la mer et sous la mer. Ce sont des sujets qui nous intéressent et qu'on essaye d'approfondir de façon à ce qu'on soit plus instruit sur ces sujets-là et qu'on partage cette information, soit avec la marine, soit avec l'extérieur de la marine.
Qui s'appelle le rayonnement.
Exactement, c'est du rayonnement. Ça permet de faire connaître la marine au grand public et parfois même aux marins aussi.
Et on va parler peinture.
Absolument. La marine a procédé à l'appel d'offres pour le 46e salon de la marine. C'est un moment où le public peut candidater pour être exposé au salon de la marine qui aura lieu au mois de mai 2026.
Au mois de mai 2026, là on parle de peinture avec les peintres officiels de la marine.
Absolument. C'est ce qui permet soit de simplement être exposé parce qu'on est un amateur et qu'on aime la mer, soit de candidater pour devenir peintre officiel de la marine. C'est un concours qui en fait a deux possibilités.
Et quand on parle de 2026, vous allez célébrer les 400 ans de la Marine nationale.
Ce 46e salon de la marine s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la célébration des 400 ans de la marine. La marine a été constituée à la demande de Louis XIII auprès de Richelieu. Donc il y a un édit.
David Sanson, c'est bien l'édit de Saint-Germain signé en octobre 1626.
Absolument. Et qui marque le point de départ de la marine telle qu'elle existe aujourd'hui. Et nous souhaitons célébrer cet événement dans tous les territoires, pas seulement sur les littoraux, mais également à l'intérieur des terres. Pourquoi ? Parce que les bateaux naissent dans les ports, mais ils ont été fabriqués avant dans les territoires. Je prends l'exemple des cœurs nucléaires du porte-avions Charles de Gaulle. Eh bien, ils ont été fabriqués au Creusot. Les marins naissent également dans tous les territoires, que ce soit outre-mer ou au bord de l'eau ou dans les terres, ce qui a été mon cas. En fait, il n'y a pas de territorialité, de littoral producteur de bateaux et de marins. En fait, les marins viennent de partout.
Et David Sanson, quand on est contre-amiral, qu'est-ce que ça veut dire la mer pour vous ?
La mer, c'est 37 ans de ma vie professionnelle, beaucoup de souvenirs et puis encore beaucoup d'idées à venir parce que la mer, elle change sans cesse. C'est un espace en mouvement. Il y a les aspects juridiques qui changent. L'exploitation de la mer change et c'est la raison pour laquelle la marine participe à toutes les actions qui visent à protéger la mer et les océans. La marine est engagée dans la police des pêches. Elle évite les trafics. Elle évite que les zones économiques exclusives françaises soient pillées par des pêcheurs étrangers qui n'auraient pas le droit de pêcher. Elle lutte contre les trafics d'êtres humains, les trafics de drogue, etc. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur toutes les mers du globe depuis 400 ans.
Merci à vous, Amiral Sanson. Un site internet, cesm.gouv.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
La chaleur, les enfants et la guerre en Iran, c'est en résumé ce qu'on trouve aujourd'hui en une de vos journaux. Été de plus en plus étouffant, s'inquiète le Parisien aujourd'hui en France. Photo à l'appui de silhouettes écrasées par la touffeur dans un nuage de brumisateurs. Une bonne partie de la France est en alerte canicule ce vendredi, précise le quotidien, qui a compulsé 30 ans de relevés météo et voit, dit-il, les coups de chaud de ce type se multiplier. Les échos sont d'ailleurs inhabituellement alarmés. Avec en photo de une tour Eiffel complètement enveloppée par un air lourd et jaune, le titre claque, le changement climatique hors de contrôle. Enfance, trouver le bon rythme, c'est informatif, c'est le titre de La Croix, alors que démarre la convention citoyenne consacrée au temps de l'enfant, dont les rythmes scolaires, souvent inadaptés, estime le journal. D'ailleurs, la petite fille en une se frotte les yeux qu'elle a bien cernés. Sur le même thème, Libération nous montre les pieds d'une autre petite fille qui s'amuse à jouer les aiguilles sur une horloge dessinée au sol. Rythme scolaire, le mercredi, samedi, plaisante Libé, pour qui notre organisation du temps scolaire pénalise les élèves, se met courte, journée longue, grandes vacances. Le quotidien promet un débat passionné. L'autre actualité, c'est donc encore cette guerre entre Israël et Iran. Le Figaro décrit l'Iran dans la crainte de frappes américaines, puisque le président des États-Unis laisse planer le doute et se donne 2 semaines de réflexion. Selon le quotidien, le Pentagone était prêt à tout moment, je cite, à déclencher des raids contre le nucléaire iranien. Iran, un peuple entre deux feux, ça c'est le titre de l'Humanité, qui nous montre un homme tourné vers une montagne d'où s'échappe de la fumée. Le quotidien communiste raconte la vie entre deux feux, donc de cette population coincée entre les bombardements d'Israël et la répression du régime. Enfin, plus léger, allez, ce très photogénique or rouge en une des éco-weekends, c'est une fraise mise sous cloche. La fraise française reprend des couleurs, assure le magazine, dans un marché dominé par le Mexique et la Chine. Allez, un petit cocorico vitaminé. À 5h19, comme tous les matins, à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, c'est l'Agence fédérale américaine chargée de l'application des lois sur l'immigration, la ICE. Alors, Cyril, d'où ça sort ?
Voilà une enfant de George W. Bush. Les États-Unis sont traumatisés par les attentats du 11 septembre 2001. Alors, pour faire face à la menace terroriste, le gouvernement décide de renforcer sa structure de sécurité intérieure. En novembre 2002, il fait adopter le Homeland Security Act, qui mène à la suite à la création du Department of Homeland Security, le DHS. Quelques mois plus tard, le 1er mars 2003, le DHS entre en fonction. Sa première mission est de remanier les services des douanes et ceux qui veillent à l'immigration et à la naturalisation. Pour donner naissance à deux nouvelles agences, dont la Immigration and Customs Enforcement, la ICE, charge à elle de s'occuper de l'application des lois à l'intérieur du territoire. Nous sommes 22 ans avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Et alors pourquoi la mise sur pied de cette ICE ?
Eh bien parce que les États-Unis s'inquiètent des menaces pour la sécurité nationale, c'est dit comme ça à l'époque, des menaces à l'intérieur des frontières de leur pays. Une police dotée de pouvoirs très étendus et surtout des pouvoirs discrétionnaires pour surveiller, poursuivre, détenir et expulser les personnes qu'elle considère comme des menaces pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. C'est dit comme ça. Depuis 2003, cette ICE a fait du chemin. Elle est maintenant la plus grande agence d'enquête du DHS, avec environ 20 000 agents répartis dans plus de 400 bureaux dans le pays. Son budget annuel autour des 8 milliards de dollars. Et elle est devenue une arme politique au service d'un président qui détient aujourd'hui tous les pouvoirs. Pour quel danger la ICE peut-elle tout faire ?
Réponse dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était donc Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Ils sont de retour tous les deux à 16h cet après-midi et on remontera le temps jusqu'à 2013 et la création de Black Lives Matter. Il est 5h21 sur Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker, mais tout de suite le rap des Belges de Caballero et Jean Jass.
Paris Est, y'a des clans et des tribus, transact dans un coin exigu. Des clochards se bagarrent dans les détritus. Dehors c'est hardcore, je reste à la casa. Hier j'ai vu un tox avec deux cuillères comme à la casa. Le peuple a faim, paix à souffrance. Je me sens comme un roi, comment je bois du vin à outrance. Que des crises de munchies, des suppléments cheese. Petit verre de Rémi, éclair de génie comme leur sandwich. Je dois m'en sortir donc je fais en sort. Je renverse une poubelle jaune, y'a trois rappeurs qui en sortent. Qu'à part passe par la petite fente, pas par la grande porte. Ils me renifient sans ce que je transporte. Hey, wax dans les alvéoles, mes cheveux sont coiffés par éole. Prévoyant ces mères de succès, je garde un tas de pré-roll. Je dois faire mon trou là où y'a v'là le pétrole. Avant d'étudier mon style pop des Adderall.
Je vais un back out, je vais un ennemi. Tous les hops, t'es dedans, je le mets dedans. On me dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con, gars,
non, je leur dis non, non, non. Je vais un back out, je mets un ennemi.
Un hop, t'es dedans, je le mets dedans. Dedans.
Posé en terrasse, je joue à la vedette. Gamos noir qui passe et shoot par la fenêtre. Tellement chaud avant même de me toucher les balles fondent. J'suis bercé par les bruits que les rues de la capitale font. Gros gamin, j'propose de t'asseoir et j'retourne le tabouret. Rap musique, mon amour, s'il faut, j'me tape pour elle. Même si souvent elle est en club à faire la tasse bourrée. On dit Gaba, t'es à ton prime, j'réponds ça se pourrait. Non, j'rigole, c'est évident. Un petit hit de l'été pour que les filles dansent. C'est bon pour les finances. Couplé de Joule, Gims au refrain, j'dis pas non. Olympia et Zénith, laisse tomber un Trianon. J'suis zen comme au Tibet. Tu voulais te mettre dans le bain, mais l'eau est glacée. Pas moyen que tu t'y baignes. Ce truc c'est pas pour toi, change de voix comme T-Pain.
Change de voix, bitch.
Je vois un backwood, je mets un ennemi.
Tous les hops, t'es dedans, je le mets dedans.
On me dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con ou quoi ? Non, je leur dis non, non, non.
Je vois un backwood, je mets un ennemi.
Un hop, t'es dedans, je le mets dedans.
Même pas un cimer, wow. Si c'est comme ça qu'on en finit, c'est comme un cimer. Wow. Cendre blanche, hein? Big Jean Jass, c'est la frappe. J'ai trouvé ton vinyle chez Phare, c'est attrape. Perso, j'ai trouvé très moyen, nul. C'est pas peu dire. Hein? J'passais acheter un cosplay pour la petite. Faut pas que je me trompe,
la dernière fois.
J'ai eu des petits reproches. Hein? Avec ma mini liasse, on dirait un livre de poche. Hey, hey. Des gaines de Peter Crouch, ça danse le robot. Escargot en entrée, très à propos. En plein entretien confidentiel. Le serveur m'indique que l'agneau est confit dans le miel.
Wow, wow, wow.
J'écris avec la plume de Nas. Assez d'amis, c'est sold out, y'a plus de place. Mon cœur ne bat plus, c'est comme s'il y avait plus de basse.
Plus de basse.
Non, 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 je leur dis non, non, non.
Moi j'avoue, je fume pas, hein. Mais j'ai des G qui roulent des hop en pack. En mode qu'il est tord en quatre, jusqu'à ce qu'ils aient le corps en vrac, mort dans le sac. Rebeu, faut des tops. tonnes de big shake. Si j'étais pas le meilleur, j'aurais jamais drop de mixtape. Arrête de faire le player. T'as pas de go, t'as juste le téléphone. Rose Cameron de Deep Set 1200. C'est pas assez pour que je sorte. Déjà que je mets pas le nez dehors s'il y a une brise de vent. Tu fais que de lancer des pics. Tu fais quoi toi? Des prises de sang? Laissez les bitches rebeux derrière. Mettez les jeans devant. Elle fait la pouffe toute l'année que des saisons de bitch. Elle veut que je m'occupe d'elle et de son fils. Ça me donne de raisons de fuir. Elle veut juste un pourcentage. Donc elle me fait des avances comme une maison de disques.
J'ouvre un backwood, j'mets un ennemi.
Tous les hop, t'es dedans, je le mets dedans.
Smoke. On me dit, tu dois faire une cure comme Amy.
T'es con ou quoi? Non, j'leur dis non, non, non.
No. J'ouvre un backwood, j'mets un ennemi.
Un hop, t'es dedans, je le mets dedans.
No.
No. T'es dedans, je le mets dedans.
No.
No. Je le mets dedans.
No. Amy.
Amy par Caballero et Jean Jass à l'affiche de plein de festivals cet été.
France Inter.
Allez, à 5h25, comme promis, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi dernier, elle faisait un gros plan sur le Salon du Bourget.
Donc le Salon du Bourget pour les nuls, je vous propose, on reprend les bases. C'est un salon militaire et civil. Donc la moitié du salon propose des avions pour tuer des civils, l'autre moitié propose des avions pour les évacuer. Très malin. C'est aussi l'occasion de présenter des systèmes d'armement de pointe toujours plus perfectionnés. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce qu'avec le nombre de civils zigouillés tous les jours, on pourrait penser que la précision, jusqu'à présent, c'était pas une priorité. Pour autant, la France appelle ça un salon. Voilà, c'est comme un salon du livre. Sauf que Gallimard et Flammarion, c'est allé sous Dassault. Bienvenue au stand, je vous sers un petit verre, canapé au saumon. Oh, attention, vous êtes assis sur une ogive nucléaire. Ah oui, enfin, c'est moins un salon que la foulard à l'hémoglobine, bien sûr. Voilà.
Ça, c'est pour mieux décrire l'ambiance, c'est bien, c'est bien.
Surtout cette année, hein, dans un contexte international de guerre. Donc je disais, cette année, avec la multiplication des conflits, c'est-à-dire la guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, la guerre au Parti Socialiste, cette année, les exposants n'ont pas besoin de déplier un long argumentaire. Ils sont là, écoutez, si vous voulez une démonstration de nos produits, il suffit d'allumer la télévision. Le Made in France mise cette année sur le drone militaire, fabriqué en coopération avec le constructeur automobile Renault. Donc nos drones vont avoir la tronche d'une kangou. Prévoyez une révision tous les 5000 km. Sinon, vous pouvez opter pour le drone issu de la collaboration Airbus et Dassault, qui s'appelle le drone MALE. Et oui, mais calmez-vous, MALE, c'est juste pour moyenne altitude et longue endurance. Longue endurance, MALE. Le drone femelle, c'est pour livrer les courses. Faudra attendre le salon des arts ménagers. Patience, mesdames. Alors, la France est aussi très compétitive en ce qui concerne les matériels militaires indétectables par les radars, que ce soit les avions, les drones ou le ministre des Armées. Qui s'appelle
Sébastien Lecornu.
Oh là là, Léa, bravo. Oh là là, vous avez progressé.
Hein. Premier ministre, donc révisez, va vous de réviser là.
Mais je sais, futur Premier ministre, alias le grand muet pour l'instant quand même. Hein. Ah, il a l'armée tellement chevillée au corps qu'il évolue en mode camouflage. Alors lui, il traverse les guerres sans une égratignure. Il est toujours là, ministre de la Défense depuis 8 ans. Macron s'est jamais rendu compte qu'il était au gouvernement. Je pense du coup, il l'a laissé là. Voilà. Donc il peut y rester encore longtemps. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que nous, ici à la matinale, on est là depuis si longtemps. Peut-être que personne ne s'est rendu compte qu'on était encore là. Et donc on reste. 5 stands d'armes offensives israéliennes ont été recouverts de planches noires. Le gouvernement a décidé un blocus des stands. Mais alors pas de panique pour les agents qui sécurisent l'espace. Vous aurez vos plateaux repas. L'aide humanitaire va pouvoir passer. En tout cas, en ce moment, Emmanuel Macron appelle tous les pays à arrêter les guerres tout en continuant d'accueillir un salon qui vend des armes. On est arrivé au bout du en même temps, non? Après, il faut dire que depuis son histoire de réarmement démographique, Macron, son credo, c'est « faites l'amour et la guerre ».
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain samedi à 19h20 aussi pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
France Inter présente Histoire secrète de la French Touch.
C'est quoi la French Touch?
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
Ils étaient un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
30 témoins.
Ils inventaient quelque chose.
30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
Voilà, il y avait une idée de mouvement.
Daft Punk, Cassius, Justice, les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont faite.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter.
Histoire secrète de la French Touch.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Il est presque 5h29 sur France Inter. Qui voilà ? Ali Badou, bonjour.
Mais oui, c'est moi. Bonjour Marion, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Plutôt pas mal.
Au programme aujourd'hui ?
À 6h20, une note sur le sommeil. Nous qui avons un peu de mal à nous réveiller ce matin. Le sommeil, la lutte du siècle. Question que vous poserez à Paul Klotz, l'expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur d'une note sur la question à 6h20. À 7h45, il sera question de télé. La télé de papa a-t-elle encore un avenir après la historique entre Netflix et TF1. On en débattra avec les habituels amis du vendredi, Dominique Seux et Thomas Porcher. Et à 8h20, notre invité sera Bernard Guetta, député européen du groupe Renew, membre de la commission des affaires étrangères pour une grande revue, un passage en revue des enjeux et des défis qui concernent le Proche et le Moyen-Orient, guerre en Iran avec la situation israélienne qui se tend toujours sur le terrain avec les attaques sur Gaza et la colonisation en Cisjordanie.
Et on a donc le programme. Merci beaucoup et tout à l'heure, Ali.
Merci à tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal aura du lieu, bonjour.
Rebonjour.
Le salon du Bourget ouvre au public aujourd'hui.
Et jusqu'à dimanche, près de 300 000 visiteurs attendus à ce salon de l'armement avec l'accent mis sur le spatial. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs énoncer quelques priorités en la matière pour la France et pour l'Europe. Mais pour les professionnels de l'aéronautique, cette édition 2025 du Bourget a surtout ressemblé à une gigantesque foire aux drones, Éric Biégala.
Il y a tout, des drones de surveillance, des drones d'attaque, des drones anti-drones. Dallaire, par exemple, faisait de la surveillance. Ils sont passés aux drones d'attaque en Ukraine avec leur dernier né, l'Oscar, lançable à la main. Bastien Mancini, patron de Dallaire.
On a eu des retours très positifs des utilisateurs en Ukraine. En effet, il est utilisé depuis le début de l'année. Aussi des idées d'amélioration, parce que dans le contexte ukrainien, les choses évoluent très vite.
Les gros de la défense y sont mis également, comme Thales, s'associant à des dronistes. Éric Lenseigne est responsable drone chez Thales.
On leur fournit la charge utile du drone sous la forme d'un radar boosté à l'intelligence artificielle pour optimiser les reconnaissances qui sont faites par le signal radar.
Le drone de Turgis et Gaillard peut voler 20 heures d'affilée, celui de Skydweller des semaines.
Puisqu'il est sur une source d'énergie qui est solaire, lui, il peut durer beaucoup plus longtemps.
Enfin, un ancien spécialiste des feux d'artifice aérien, Michel Lallemand, a mis au point un drone volant pratiquement comme un oiseau, le Beluga.
C'est un drone sous voilure flexible, une aile volante avec un moteur, avec un empennage à l'arrière qui nous permet de multiplier par 3 la vitesse de décollage. C'est de la logistique aérienne pour désenclaver des zones compliquées.
Celui-ci a déjà réussi des missions de livraison de matériel humanitaire au cœur de l'Afrique, là où aucun hélicoptère n'aurait pu y parvenir.
Éric Biégala. La France investit aussi dans les satellites et plus précisément dans Eutelsat, un opérateur français de satellites. L'État investira 717 millions d'euros au total pour concurrencer le réseau américain Starlink et Elon Musk. Une fenêtre existe pour parvenir à une solution diplomatique avec l'Iran. Déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy après une rencontre à la Maison-Blanche avec son homologue américain Marco Rubio. Alors que Donald Trump donnera sa décision dans les 2 prochaines semaines à propos d'une éventuelle intervention américaine dans l'affrontement militaire entre l'Iran et Israël. Israël affirme que toute aide serait la bienvenue pour combattre l'Iran et son programme nucléaire. Et les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti tôt ce matin dans plusieurs régions du pays après des tirs de missiles iraniens.
L'enseignement catholique français veut libérer la parole.
Montrer aussi qu'il n'attend pas les préconisations de la commission d'enquête parlementaire née de l'affaire Betarame et qui doit rendre ses conclusions très prochainement. Il annonce 3 mesures pour renforcer la protection des élèves au sein de ces établissements, Sonia Princey.
La parole est encore trop peu libérée, constate la direction de l'enseignement catholique. Alors pour Philippe Delorme, le secrétaire général, il ne faut pas attendre les recommandations des parlementaires.
Il nous a semblé important de montrer que nous étions ni sourds, ni aveugles, ni inactifs.
Il confie une mission à des experts indépendants, dont Alain Esquer, le porte-parole du collectif des victimes de Betarame. Ils devront proposer un dispositif d'écoute et de libération de la parole. Un audit va également être mené par une entreprise extérieure dans les 596 internats. Les établissements devront valider un certain nombre de points pour obtenir une certification.
Par exemple, est-ce que dans l'internat, l'intimité de l'enfant est respectée ? Est-ce que dans cet internat, les personnes qui interviennent ont été formées non seulement à l'écoute des jeunes, mais aussi à la protection des jeunes et ont vraiment acquis les bons réflexes en cas de difficulté ?
L'association des parents d'élèves de l'enseignement libre soutient ce devoir d'inventaire, sa présidente Hélène Lobigna.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains de nos familles qui ont ce besoin, en fait, que ces internats soient des lieux sûrs. C'est la chair de leur chair qui confie, en fait, à l'institution. Donc, il faut vraiment être dans la confiance et avec des choses qui soient cadrées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
38 000 jeunes sont internes dans l'enseignement privé sous contrat.
Sonia Princey. Plusieurs articles de la loi de durcissement de la justice des mineurs censurés par le Conseil constitutionnel. Le texte porté par Gabriel Attal et adopté mi-mai par le Parlement renversait notamment le principe d'atténuation des peines pour les mineurs. Le Conseil avait été saisi par des parlementaires de gauche qui estimaient que de nombreux articles de cette loi étaient contraires au principe de la justice des mineurs en France. EDF envisage de baisser la production de son parc nucléaire à cause de la forte chaleur attendue ces prochains jours et notamment sur le site de sa centrale du Bugey dans l'Ain à cause de l'échauffement des eaux du Rhône. 16 départements sont en vigilance orange canicule ce vendredi, dont 14 de la façade ouest de la France où les températures pourront atteindre jusqu'à 38 degrés. Le Rhône et l'Isère sont aussi en vigilance orange. Et puis en foot, le PSG s'incline 1-0 face aux Brésiliens de Botafogo à Pasadena au premier tour du Mondial des clubs. Les Parisiens avaient remporté leur premier match contre l'Atlético Madrid. Le champion d'Europe tentera d'obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale lundi contre les Seattle Sounders.
C'était le journal de Laura Dulieu. On reparlera de ce Mondial des clubs dans l'édito sport de Nathalie Yanetta juste avant 9h. Allez, bonne journée Laura. Allez vous mettre au frais parce qu'il va faire de plus en plus chaud. Aujourd'hui, vous le disiez, 16 départements en vigilance orange, canicule, Manche, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente, Rhône et Isère. Cet après-midi, quelques averses orageuses pourraient arroser les Alpes. Le thermomètre affiche 13 à 24 degrés ce matin, 22 à 38 cet après-midi, 28 à Cherbourg, 29 à Lille, 30 à Brest, 31 à Nancy, 33 à Paris, 34 à Lyon et Biarritz, 35 à Marseille, 36 à Perpignan et Rennes, 37 à Bordeaux.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de prendre une grande respiration et de plonger dans la playlist. Bonjour Mathieu Conquet.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez d'une fleur de lotus. Mm-hmm. C'est le nouvel album d'une chanteuse anglaise qu'on appelle...
Little Sims.
Yeah. My testing. One, two, one, two. Yeah, okay. That creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I...
Allez, je vous traduis. Quand j'ai besoin d'argent, je vais au bingo. Hier soir, j'ai demandé une pièce à Jenny. Voilà comment débute cette chanson en forme de fiction. Young. Et en moins de 3 minutes, Little Sims fait exister un personnage, ses idéaux, les péripéties et les précipices d'une jeune fauchée de 20 ans qui, comme elle le dit dans le refrain, veut vivre les rêves les plus fous. Ouais, on est juste jeune et débile. Pas de responsabilité et on s'en fout de tout le monde. Oh, ça, c'est pas vrai. Elle a 31 ans déjà. Simbiatou Ajikawo, alias Little Sims, londonienne, rappeuse depuis qu'elle a 15 ans, elle sait tout faire, chanter, écrire, mais aussi jouer la comédie. Elle joue le personnage de Shelly dans la série Top Boy sur Netflix. Elle est pas maladroite avec un ballon de foot, comme on a pu le voir dans une vidéo de soutien pour son club d'Arsenal. Bon, ça n'a pas suffi pour les Gunners dans la Ligue des Champions. Non. Mais elle fait bien partie des meilleurs pistolets du Royaume-Uni, des voix puissantes à l'image de Kate Tempest ou Central Cee. Little Sims, sans concession, est toujours bien entourée. Six, don't quit. Keep building it brick by brick. Takes a million to send you to prison, a million to get you a house and a stick. As I walk this wicked ground, keep me away from the devil's palm. As I walk this wicked ground, keep me away from the devil's palm. I am the light.
Flood, on entend là Little Sims, accompagné d'Obong Jayar et Moonchild Sanelly.
Une Sud-Africaine aux cheveux bleus et à la voix, vous l'entendiez là, très singulière. Little Sims, elle travaille avec qui elle veut. Kendrick Lamar la cite comme référence, elle remporte tous les prix, occupe les grandes scènes et cela sans maison de disques ni major à ses côtés. Si l'album s'appelle Lotus, c'est parce que la fleur est pour elle, je cite, un symbole de force, de résilience et de renaissance. Et oui, vous savez, le pied de lotus, ça pousse dans la boue. On va écouter Free, une large définition de l'amour opposé à la peur, Little Sims.
love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though, I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day.
Free de Little Sims, à retrouver, vous le faites très bien Mathieu, à retrouver dans la playlist de France Inter. Et vous Mathieu, on vous retrouve ce soir au menu de votre émission.
Ah, plein de nouveautés comme d'habitude avec d'autres anglais, anglaises, Freaks Lugs, Kate Tempest, des remixes de Cure et une histoire, celle du groupe bordelais Caméra Silence. À ce soir 21h.
Et un autre rendez-vous à demain pour la fête de la musique de France Inter à l'Olympia à Paris.
Ah oui, et avec, je serai avec Aline Lafanoukoué et tous les artistes sur scène.
Waouh.
Allez, à samedi.
5h41, le Zoom, avec cette question. Peut-on être sportif et en même temps diabétique de type 1 ? En France, 300 000 personnes sont touchées par cette forme de la maladie. La plus contraignante, celle qui nécessite des piqûres d'insuline tous les jours. L'association Sugar Palace organise un stage pour les personnes diabétiques de type 1. Une grande première en France. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Ce stage de surf, c'est 4 jours dans les Landes, à Biscarros. Et Victor, surf et diabète, ça va bien ensemble ?
Oui, même si ce n'est pas forcément toujours évident. 8 femmes, 8 patientes diabétiques au pied de la dune, un surf sous le bras, déjà une première épreuve pour ces malades, comme l'explique Tine, 58 ans.
Là, je commence à être déjà un peu essoufflée, alors qu'on ne fait que marcher avec 2 planches. Ça fait baisser le taux de sucre dans le sang, donc on risque d'être en hypoglycémie. Une fois en bas, là, sur la plage, il faut qu'on surveille, et certainement, il faut manger quelque chose. Moi, je vais prendre une pâte de fruits pour faire monter le taux de sucre dans mon sang.
Alors, on va se faire une petite présentation, parce que j'aime bien savoir la personne qui se casse la gueule devant moi.
Au bord de l'océan, le professeur de surf, Christophe, met à l'aise ses apprentis de la vague comme si elle n'était pas malade.
Coralie, Coco, 29 ans, je viens de Lille. Je suis venue l'année dernière, j'ai trop adoré.
La seule à ne pas surfer, c'est Pauline Pinsol, diabétique depuis plus de 14 ans. Elle a eu l'idée de ses stages en échangeant avec d'autres patients sur les réseaux sociaux. Sa mission, être au bord de l'eau, rassurer les participantes et surveiller leur glycémie.
Je les attends toujours sur le sable. J'ai une glacière avec tous les resucrages, des jus de fruits et des bonbons. Et dès qu'elles ont besoin, elles sortent de l'eau. On check et la glycémie, et si besoin, on se resucre.
30 minutes plus tard, on retrouve Tine. Malgré de gros rouleaux, les sensations sont excellentes.
C'est difficile, mais bon, j'ai réussi à me mettre sur les genoux, j'ai réussi à me lever une fois, un tout petit peu. Donc on continue.
Un tel plaisir dans l'eau qu'elle en oublierait presque sa maladie.
Il y a une liberté incroyable et puis il n'y a plus rien qui existe. Quoi. Je ne pense plus à rien, juste le plaisir d'être dans l'océan. Je ne suis plus diabétique. Mais en fait, on a vite fait d'oublier le diabète. Et ça, bon, il faut faire un peu attention. Quoi.
Mais l'hypoglycémie n'est jamais loin dans leur tête. La peur de ne pas avoir assez de sucre dans le sang. Une forte baisse de régime qui angoisse beaucoup Amélie.
J'appréhende énormément. Je sens aussi que mon corps, là, la glycémie, elle est en train de... Il se passe quelque chose, donc je vais aller faire un contrôle. Ma glycémie, elle est en train de bouger, là. Et là, ça me crée une petite angoisse.
Et c'est bien pour ça que ce stage a été créé, Victor. Une surf-thérapie pour permettre aux malades de concilier sport et diabète.
Et pour rassurer ses stagiaires, la sécurité est primordiale. En combinaison, le prof Christophe guette les moindres signes de fatigue et ça marche. Il est même bluffé par leur résilience.
Le surf fait sauter toutes ces barrières-là et là, en fin de compte, elles ne pensent plus du tout à leur maladie. C'est impressionnant parce qu'on arrive à les mettre debout assez rapidement. Tu vois, il y en a au bout de 3 vagues, elles sont debout. C'est une thérapie. On passe par le sport, mais c'est une thérapie.
La session surf terminée, place au déjeuner. Et là aussi, le diabète est dans toutes les discussions. Eva scrute son assiette avant de commencer.
On essaye en fait d'évaluer et calculer le nombre de glucides qui sont dans l'assiette. Et c'est ça qui va déterminer en fait la dose d'insuline qu'on va s'injecter.
Chaque activité est l'occasion d'échanger des conseils sur la maladie. Elira habite en Alsace, là où elle vit, rien sur le diabète. Aucune recommandation pour son quotidien, si ce n'est ses rendez-vous purement médicaux. Elle a tout fait pour assister à ce stage.
C'est surtout le partage, quoi. Les expériences, le sport, la nutrition, comment chacun vit son diabète. Clairement, c'est quelque chose pour moi qui est important, ça me fait du bien, c'est vraiment une petite bulle d'air, quoi.
À l'issue du stage, Pauline, l'organisatrice, fait le bilan. Elle voit bien que certaines filles ont plus de mal à gérer leur diabète, pendant que d'autres lâchent prise plus facilement.
C'est surtout apprendre à bien vivre avec sa maladie et apprendre à se faire confiance. Ce stage de surf thérapie, c'est ça, d'être ultra connecté à nos téléphones, donc à notre glycémie, donc à notre maladie, et d'être dans l'ultra contrôle. Et bien là, t'es obligé de lâcher prise, te faire confiance, te reconnecter à toi, et en fait, c'est un vrai travail, quoi.
Un travail que ces patientes diabétiques entendent bien poursuivre. Elles se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau stage de surf. Une communauté est née, une amitié aussi, pour apprendre à mieux maîtriser la maladie.
C'est un zoom de Victor Dolanda, réécouté sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invité déjà debout, spécialiste des enjeux de vie au travail chez Coldwell Baker Richard Ellis, c'est le numéro 1 mondial de l'immobilier d'entreprise, bureau, logistique, résidence, etc. Bonjour Grégoire de La Ferté.
Bonjour Marion Lourd.
On vous appelle à Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout à cette heure-ci ?
Je suis debout parce que c'est à peu près l'heure à laquelle je me lève, même si il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui je me lève un petit peu plus tôt pour pouvoir vous parler ce matin.
Et pourquoi si tôt ?
Pourquoi si tôt ? Parce que le matin, c'est un temps particulier avant que la journée démarre, c'est une journée avant la journée qui permet de bien préparer cette journée. Et puis aujourd'hui, c'est vendredi, et donc c'est une journée qui est un peu différente du reste de la semaine, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on l'analyse aujourd'hui, nous. Le vendredi, c'est une journée particulière. C'est vrai que le Covid est passé par là, a généralisé le télétravail, qui a institué le vendredi comme une extension du week-end, ou plutôt, je dirais, le préambule au week-end, finalement. Oui. C'est donc une journée qui, pour nous, doit maintenant se dérouler différemment du reste de la semaine, en lui conférant ce qu'il faut considérer comme étant des aspérités, des thématiques, pour que la journée, ça soit la journée finalement anti-routine. Voilà.
En fait, vous essayez, si on résume votre démarche, vous essayez de réinvestir le vendredi, de faire revenir les gens ce jour-là, que ce ne soit pas le jour où on est en télétravail.
Oui, absolument. C'est une journée un petit peu différente, parce qu'il faut bien réallouer en fait les différents temps de travail dans la semaine. Et le vendredi, c'est une journée qui doit se dérouler effectivement différemment pour nous. Pour moi, c'est une journée qui doit commencer par le thème de la convivialité, notamment, avec bien entendu là aussi par extension du week-end, puisque le week-end on est avec ses amis, on est avec sa famille aussi. Et d'ailleurs, les entreprises en fait, elles se sont pas trompées là-dessus, elles se sont bien appropriées le sujet. En organisant notamment des petits déjeuners, des déjeuners avec les collaborateurs, pour que ça soit un temps aussi de convivialité un petit peu différent du reste de la semaine. Et puis comme on reste un pays qui est viscéralement attaché à la nourriture, c'est vrai que c'est un vrai levier d'attractivité. Donc ça, c'est une première approche.
Ça veut dire que vous proposez un petit déjeuner aux salariés, en clair ?
Ça veut dire qu'on propose un petit déjeuner, que les équipes s'organisent pour que effectivement ça soit un temps différent. En fait, le vendredi, on prend un petit peu plus de temps, on a un petit peu plus de temps que le reste de la semaine, et donc ça permet effectivement de créer cet instant de convivialité.
C'est aussi une journée de qui est un peu différente, qui est plus créative, où il y a plus de coopération.
Ouais, effectivement. Le vendredi, il faut le voir différemment. Le vendredi, on travaille différemment, on se recentre. on se rassemble, on se mélange aussi. Hein. C'est un temps privilégié pour que les équipes puissent se mélanger, se recentrer et passer un petit peu plus de temps à échanger sur des projets et donner du temps effectivement à cette créativité, à cette collaboration.
Et vous ouvrez aussi ce jour-là la voie, la place à des organisations caritatives.
Alors effectivement, ça c'est aussi un des leviers, c'est que le vendredi c'est un temps pour soi, mais c'est aussi un temps pour les autres, et c'est un moment privilégié pour mettre en œuvre le S de la stratégie RSE des entreprises, et on se l'est approprié chez CBRE. Effectivement, je vous donne un exemple. Vendredi dernier, nous organisions chez CBRE notre journée caritative, Social Day, en fédérant près de 120 collaborateurs pour intervenir avec une association que je salue d'ailleurs, qui s'appelle les Bricots du Cœur. Mmh. Et nous sommes intervenus sur différents sites en France, en commençant par l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré, en étant également à Nantes avec les maisons de Marthe et Marie, à Lyon avec les petites cantines de Lyon-Vaise, et puis à Lille avec un temps de vie. Et ensemble, on a passé du temps pour embellir ces lieux en repeignant des chambres ou des lieux de vie pour tout simplement améliorer le quotidien, et puis aussi prendre du temps alors pour les autres, et puis également prendre du temps pour nous. Voilà. Mmh.
Et alors, en un mot, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, mais ce réinvestissement du vendredi, ça marche ?
Alors, ça marche, oui, effectivement, ça marche. Parce qu'effectivement, ça vient renforcer, ça vient créer ce sentiment d'appartenance. Ça permet aussi de décliner sa marque employeur. Et puis, ça permet finalement de donner plus de profondeur, plus de relief à ce vendredi pour lui donner une véritable thématique et que ça soit une partie intégrante de la semaine, comme tous les jours, les autres jours de la semaine, tout simplement.
Eh bien, bon vendredi à vous, Grégoire de la Ferté, directeur général de Coldwell Banker Richard Ellis. Merci de nous avoir répondu sur France Inter en ce vendredi. Donc, et bon vendredi à tous, chers auditeurs. 5h51, les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux, avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, c'est Antoine qui pose une question un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, vos papiers s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 12 ans et je voudrais savoir à partir de quel âge on est adulte. Merci, au revoir.
Merci à toi Antoine pour cette question. Je suis avec la magistrate et présidente de l'UNICEF France qui défend les droits des enfants, Adeline Azan. À partir de quel âge alors, Antoine, il ne demande pas on est majeur, il demande à partir de quel âge on est adulte. Il y a une petite nuance là, hein ?
Absolument, et malheureusement, j'ai le regret de te dire, Antoine, que à ton âge, on n'est pas encore adulte, mais ça viendra et profite aussi de ton âge. En fait, être adulte, ça veut dire qu'on est assez mature pour être totalement responsable de ses actions, prendre des décisions et pouvoir même aussi s'occuper des autres. Alors, la loi, elle appelle ça un mineur ou un majeur, c'est-à-dire qu'en France, on est majeur à 18 ans, donc jusqu'à 18 ans, le jeune, enfant ou adolescent, il est mineur, c'est-à-dire qu'il a des droits qui sont d'ailleurs reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte très important qui a été signé par presque tous les pays du monde en 1989, mais les enfants n'ont pas tous les droits. Par exemple, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de signer un chèque, par exemple, ils n'ont pas le droit de signer un bail pour se loger, ils n'ont pas le droit de conduire. Tout ça, on ne peut le faire qu'à la majorité, à 18 ans. Mais tu vois, Antoine, nous, justement, on considère à l'UNICEF France qu'il faut que les enfants et les adolescents deviennent citoyens progressivement. Et que plutôt que de dire, bon, à 18 ans, on a ces droits-là, et avant, on n'en a pas, sur le droit de vote, par exemple, on demande qu'on milite pour que les enfants puissent voter à 16 ans, au moins pour certaines élections, par exemple les élections municipales.
Pour leur donner un peu des responsabilités,
voilà,
quoi,
absolument,
les faire sentir un peu plus
exactement.
Grands.
Ouais. Et en fait, aussi, paradoxalement, pour lutter contre l'abstention des jeunes, parce que la réalité, c'est que les jeunes de 18 à 25 ans sont ceux qui votent le moins, quasiment. Et en fait, dans les pays où le vote est avant la majorité, notamment à 16 ans, eh ben on s'aperçoit que finalement, ils votent plus et ils vont voter plus quand ils auront 18 ans. Pourquoi ? Ben peut-être parce que, comme ils sont encore chez leurs parents entre 16 et 18 ans, si les parents votent, évidemment, bah du coup, ils entendent plus parler de ça. En tout cas, les expériences qui sont menées dans les pays qui l'ont avancé à 16 ans sont plutôt, nous rendent plutôt optimistes. Et puis surtout, il y a maintenant des lois qui donnent aux mineurs de moins de 18 ans un certain nombre de droits. Par exemple, on a donné aux mineurs de 16 ans, depuis une loi d'il y a quelques années, le droit de créer une association. Et ça, c'est formidable, parce que du coup, les enfants, les mineurs qui créent une association, ça vraiment, c'est un acte de citoyenneté.
Et là, on peut se sentir, pour reprendre les termes d'Antoine, adulte, à ce moment-là, un peu.
Oui, oui, on n'est pas majeur, mais on sent un véritable citoyen. Et c'est ça qui est important, parce que vraiment, acquérir la citoyenneté pour un jeune, c'est fondamental.
Et on espère aussi vous aider à devenir de bons citoyens au petit bateau. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux de Camille Cronier et les questions d'enfants continuent tout de suite dans Café Philo.
France Inter. Le 5-6.
Et voilà une flopée de questions au réveil. Et c'est avec vous, Patricia Martin, dans votre Café Philo. Bonjour.
Bonjour Marion Lourd.
Pourquoi on meurt ? Est-ce qu'on peut être méchant et heureux ? Comment on peut savoir que c'est vrai ? Autant de questions qui semblent simples et auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre, des questions d'enfants, quoi.
Et oui, les enfants nous réveillent. Hein. Leurs questions sont souvent étonnantes. Elles nous obligent à réfléchir autrement, quelquefois même à nous interroger sur une question à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Il n'est qu'à écouter celles qui sont posées régulièrement dans l'émission Les Petits Bateaux.
C'est vrai.
Que répondre à son môme qui vous demande « Dis, papa, pourquoi on se dispute ?» Si vous sortez d'une explication musclée avec votre moitié, je vous assure que ça va vous secouer. Et c'est là que vous aurez besoin d'aide. La philosophe Johanna Hocken.
Les enfants ont des questions massives, saisissantes sur l'existence humaine. Pourquoi les couleurs nous emportent ? L'infini a-t-il du temps ? Est-ce qu'on existe parce qu'on a une mission ? Avons-nous tous la même liberté ? Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on vivrait mieux ? Le corps est le maître de l'esprit ou le contraire ? Et enfin, ma préférée, les animaux de compagnie ont-ils aussi des animaux de compagnie ? Ces exemples, ces questions montrent la capacité des enfants à exprimer des questions essentielles qui montrent toute l'étrangeté de la vie humaine. Ils montrent aussi que les enfants ont le désir de chercher du sens. Accueillons donc toutes ces questions pour les examiner avec eux, tranquillement.
Mais oui, accueillons-les, ces questions d'enfants, et avançons ensemble.
Mais oui, parce qu'il n'y a pas d'âge, Marion, pour devenir philosophe. J'ajoute que Johanna Hocken a monté une maison de la philo intergénérationnelle accessible de 7 à 77 ans.
Génial.
En plus, il existe aujourd'hui une multitude d'ouvrages qui peuvent aider les parents ou les grands-parents. Et plus on commence à philosopher jeune, plus cela devient un jeu. Des collections entières sont désormais destinées aux enfants.
Deux invités ce soir dans leur philo pour approfondir cette question.
Oui, Edwige Chirouter qui publie un livre intitulé « À quoi pense la littérature de jeunesse ? Des enfants, des questions, des histoires ». C'est un livre qui permet de tisser le lien profond qui existe entre la philo, la littérature et l'enfance, qui montre également que toutes les expériences de la vie ont un sens, le sens qu'on veut bien leur donner, à condition d'y réfléchir. Et si la terre de la philosophie vous paraît être une terre de pirates, après avoir lu ce livre, vous allez adorer les pirates.
Et l'essai d'Edwige Chirouter est publié à l'École des Lettres, seconde invitée.
Chiara Pastorini, soucieuse d'apporter, elle, une aide pratique aussi aux parents. Chiara Pastorini mène depuis des années des ateliers philosophiques dans les classes ou avec les familles. Et le trousseau de clés qu'elle vous offre est bien précieux.
Un ouvrage indispensable donc pour les parents d'enfants curieux comme les miens. Son livre s'intitule « 100 questions hautement philosophiques que vous posent vos enfants ». Il est publié chez Solar. À ce soir, dans leur philo.
À ce soir, Marion Lou.
Et mes enfants vont avoir le droit de se coucher un peu plus tard. Rendez-vous 20h10.
Hola à todos. Vous faites quoi le 21 juin ?
Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
Rendez-vous en direct de l'Olympia pour le concert de l'année.
Avec la pop intime de Clara Luciani. Et aussi Giorgio, Benjamin Biolay et Yami.
Ils vont vous faire danser jusqu'au bout de la nuit.
La fête de la musique à l'Olympia,
c'est ce samedi sur France Inter à partir de 20h.
5h58, voici venir Magali Rochereau. Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Magali, 16 départements sont en vigilance orange canicule.
Oui, une vague de chaleur précoce, c'est ce qu'annonce Météo France à partir de midi sur l'ouest du pays. Des départements de la Manche jusqu'aux Charentes, auxquels il faut ajouter l'Isère et le Rhône. Ce matin, les températures sont élevées avec un record pour Brest où le mercure n'est pas descendu en dessous des 20,9 degrés exactement. Cet après-midi, les températures progressent lentement sur la façade ouest où 35 à 38 degrés sont attendus. C'est presque 10 degrés au-dessus des normales.
Et aujourd'hui, le soleil brille partout.
Oui, voilé quand même ce matin par ces nuages qui traversent le pays d'ouest en est, notamment du nord jusqu'aux Pyrénées et avec quelques ondées aussi sur la pointe bretonne. Cet après-midi, ce voile se décale vers l'est et des averses tombent sur le relief alpin. Et puis, le vent d'ouest souffle sur Bonifacio en Corse aux alentours de 60 km/h.
Merci Magali Rochereau.